Radio-Télévision Suisse. RTBF.
Radio France.
Radio-Canada.
Bienvenue dans votre librairie francophone. Bonjour à tous. Cette semaine, on vous emmène en Amérique, aux Comores et à Namur, pour parler de l'intime avec trois grandes personnalités. C'est le choc littéraire de cette rentrée, la révélation. Aliz Amir est un jeune auteur comorien de 29 ans. Son premier roman est un récit contemporain, réaliste et poétique. Une vague francophone incroyable. Il y a du glissant et du Césaire chez Aliz Amir. Nous irons en Amérique revisiter l'histoire avec le Québécois Daniel Grenier qui propose une fresque qui flirte avec le roman d'anticipation. Est-il possible que nous soyons un jour presque immortels? C'est l'une des questions posées, l'air de rien. Et puis nous reviendrons sur l'intime festival à Namur en Belgique. Nous avons organisé une rencontre sur place autour de la notion de l'intime avec un auteur connu, un cinéaste réputé et une grande chanteuse.
La librairie francophone. Emmanuel Kérad.
Et quatre grands libraires sont avec nous cette semaine à nouveau. Laura Sanchez représente la Suisse, libraire à Genève, dans la librairie du boulevard. Bonjour Laura.
Bonjour Emmanuel.
Comment allez-vous, chère Laura?
Très très bien.
Oui, ça a l'air. Hein.
Oui.
Bon, la rentrée s'est bien passée? Rentrée littéraire, plein de bouquins, tout ça, des cartons?
Oh ouais, ouais. On est submergé, c'est la fête.
Bon, bah tant mieux. Grégoire Courtois dirige la librairie Oblique à Auxerre. Bonjour Grégoire.
Bonjour.
Comment allez-vous?
Oh bah ça va très bien, vous savez.
Vous êtes en liaison avec nous grâce à nos confrères de France Bleu Auxerre. Bonjour Manon Trépanier.
Bonjour Emmanuel.
Vous êtes libraire à Longueuil à côté de Montréal et vous représentez donc le Canada. Coucou Déborah Damblon.
Coucou Emmanuel.
Vous êtes la voix de la Belgique cette semaine, libraire à Bruxelles dans la librairie La Licorne. Ça fait quel bruit une licorne, tiens?
Ça c'est la colle Emmanuel.
Ah bah oui.
C'est silencieux, délicat et doux une licorne.
J'étais en train de me dire ça fait des années qu'on parle de la licorne et en fait je ne sais pas. Donc vous ne savez pas non plus.
Mais c'est très silencieux.
Bon, appelle aux auditeurs, voilà, si vous avez les infos sur la licorne. Bonjour Daniel Grenier.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. Vous
Merci
publiez une
vous.
Fresque historique qui fait beaucoup parler au Canada, mais aussi en France. Il y a une grosse surprise dans ce roman. Ce n'est pas seulement un roman historique, on verra ça tout à l'heure. On commence toujours cette émission par une histoire, une anecdote personnelle racontée par l'un de nos invités. Vous avez carte blanche, vous allez nous éblouir. Que voulez-vous transmettre, Daniel?
Écoutez, j'avais envie de raconter cette anecdote que j'aime en fait raconter, qui en dit long sur l'ambition grandiose qui anime les jeunes écrivains et l'humilité qui vient un peu par la bande ensuite nous rattraper. Faut savoir que moi j'écris depuis très longtemps. En fait, j'ai publié mon premier livre à 32 ans, mais j'ai envoyé mon premier manuscrit à 18 ans chez Gallimard, à partir de Montréal. Donc j'étais persuadé à cette époque-là que j'allais réussir à publier en France comme le grand Régent du Charme, que vous connaissez peut-être,
bien sûr,
être le deuxième Québécois à publier dans la collection blanche chez Gallimard. Bon, évidemment, ça n'a pas marché, mais ma stratégie, en fait, c'était que j'avais créé à l'intérieur du roman un personnage, le personnage de Philippe Solers. Et j'étais vraiment, vraiment persuadé qu'il allait tomber de sa chaise en lisant ça, parce que je lui faisais exploser la tête, je lui volais ses idées, j'arrivais en tant que grand écrivain en tant que jeune écrivain phagocyter les grands écrivains français et internationaux.
Génial, ouais.
Et bon, j'ai reçu ma petite lettre de refus bien poli qui m'a ramené les idées en place quelques semaines ou quelques mois plus tard.
Ouais. Ça vous a calmé, quoi?
Ça m'a calmé pour quelques années.
Ouais. Daniel Grenier est dans la librairie francophone cette semaine. Et bonjour Aliz Amir.
Bonjour.
Vous publiez le roman choc de cette rentrée littéraire, Anguille sous roche, est votre premier roman. Vous êtes un jeune auteur comorien. Votre personnage, Anguille, est dans l'océan Indien. Elle ne dit qu'une seule phrase qui relate toute sa vie. Cette phrase unique, c'est le roman de 300 pages. Pourquoi son dernier souffle, pourquoi son témoignage est-il aussi important, Aliz Amir?
Ce témoignage est en quelque sorte une résistance contre la mort. La mort est là, et elle est menacée par la mort, et elle est obligée de défiler toute sa vie en une seule phrase.
Et il faut qu'elle laisse une trace, c'est ça?
Oui, pour laisser une trace. Et pour elle, c'est une manière de dire aussi qu'elle n'est pas prête à mourir.
Ouais. Alors vous vous mettez comme ça dans la peau de cette femme au bord de la noyade. Anguille est une femme forte qui décide de prendre sa vie en main. Si elle se retrouve perdue dans cet océan, c'est parce qu'elle a choisi de quitter les hommes de son île. Elle a choisi la migration. On va pas tout dire, mais elle a choisi cette migration pour la liberté.
Tout à fait, elle a choisi d'aller plus loin pour ne pas souffrir, parce que elle a été chassée de chez elle. Elle est obligée de quitter son île natale. Elle se sent libre. C'est quelqu'un qui rêve sa vie librement et qui a un esprit ouvert. Et justement, c'est ce qui caractérise l'écriture, parce que c'est une écriture qui s'ouvre au monde.
Mmh. Elle raconte du coup, elle raconte toute sa vie, élevée par leur père, Anguille, et sa sœur Crotal vont au lycée. Mais très vite, elle se détache de l'école pour aller séduire de beaux garçons. L'amour physique, c'est d'ailleurs son premier acte d'émancipation.
Oui, l'amour physique, c'est son premier acte d'émancipation, parce que elle regardait Vorace, elle regardait ses muscles, ce jeune qu'il considérait comme un Hercule pour elle. Et la première fois qu'elle l'a touché, et sans sa peau, elle est en train de rêver déjà. C'était intense pour elle, pour une jeune fille.
Mais pourquoi c'est aussi intense? Qu'est-ce qui se passe charnellement? Qu'est-ce qui la bouleverse au point de modifier la trajectoire de sa vie?
Parce que c'est une jeune fille, et quand on est jeune, on a toujours des sentiments excessifs. Mmh. Et chez elle, tout est excessif chez elle. C'est un personnage un peu bizarre et singulier.
Ouais.
C'est ce que j'ai voulu en choisissant aussi ce titre, Anguille sous roche. Anguille, pour moi, c'est la singularité. Et la roche, c'est le silence.
Ouais.
Parce que chez moi, le silence parle. Le silence dit beaucoup de choses.
Et puis, il y a des choses qui couvent aussi. Hein. Anguille sous roche, c'est une expression.
Oui,
il se passe quelque chose d'étrange. Voilà. Alors, vous écrivez à Lisa Mir, l'amour, c'est pire que la drogue. On s'enivre jusqu'à l'extase. Et puis, on fait n'importe quoi sans s'en rendre compte. Évidemment, tout le monde se reconnaîtra dans cette phrase. On va écouter la BO du roman. On vous a demandé quelle musique illustrerait le mieux votre livre, la bande originale de votre livre. Donc, vous avez choisi Francis Cabrel, L'encre de tes yeux. On est très étonnés à chaque fois qu'on fait cette séquence, donc c'est parfait. On va écouter un extrait et évidemment, vous allez nous expliquer juste après.
Puisqu'on ne vivra jamais tous les deux, puisqu'on est fou, puisqu'on est seul, puisqu'ils sont si nombreux, même la morale parle pour eux. J'aimerais quand même te dire tout ce que j'ai pu écrire. Je l'ai puisé à l'encre de tes yeux. Je n'avais pas vu que tu portais des chaînes. À trop vouloir te regarder, j'en oubliais les miennes. On rêvait de Venise et de liberté. J'aimerais quand même te dire tout ce que j'ai pu écrire, c'est ton sourire qui me l'a dicté.
Pourquoi Francis Cabrel et cette chanson, Lisa Mir?
Pourquoi Francis Cabrel? Parce que tout simplement, les textes de Cabrel sont très très liés à la littérature. C'est de la poésie. Et ce que j'ai écrit dans Anguille sous roche, c'est de la poésie.
C'est vrai.
Tout ce qui est lié à la poésie.
Mais vous l'écoutiez, Francis Cabrel, aux Comores?
Oui, bien sûr. Et chez Francis Cabrel, on a cette impression de rêver un autre monde. C'est exactement ce qui est le caractère d'Anguille. C'est un personnage qui rêve un autre monde. Pour elle, les mots sont une sorte de locomotive qui l'amène n'importe où elle veut.
Vous écrivez par exemple à Lisa Mir, la vie d'un individu est un ensemble de pièces éclairées, de pièces sombres tenues secrètes. Chacun de nous est presque un océan. Donc, on est dans ce monde comme dans une immensité composée de tant d'océans, dont la profondeur de chacun révèle l'existence indiscutable d'une variété inépuisable de créatures.
Oui, tout à fait.
Et c'est là, c'est là où on ressent la force de votre écriture, et puis finalement beaucoup d'images.
Oui. Là, je voulais justement souligner cette diversité culturelle, cette richesse que possède l'humanité, et l'humanité et la littérature. C'est ce qui fait que nous avons aussi une diversité de culture, nous avons une diversité de mentalité.
On va laisser la parole à nos libraires, à Lisa Mir. Grégoire Courtois pour la France, comment s'est passée justement cette lecture ?
C'est difficile de décrire ce livre vraiment d'un point de vue littéraire, hein, comme je fais d'habitude, là, parce que c'est vraiment une expérience physique, hein, de lire Anguille Souroche, moi, je trouve, hein. Il y a le procédé de la phrase unique, hein, vous en avez parlé un petit peu, mais bon, ça, je trouve pas que ce soit très utile, forcément. Et d'ailleurs, Alice Amir a parlé même de plusieurs phrases, et c'est vrai qu'on n'a pas cette sensation-là. Par contre, la chose qui est très, très impressionnante, parce que dans cette émission, on a vu passer beaucoup de français un petit peu décalés, enfin, de la langue française un petit peu tordue, mais là, ça fourmille d'invention, c'est un des trucs les plus incroyables qu'on ait vu passer ici. Hein. La langue française est tordue, il y a des réflexions, il y a surtout, on parlait de richesse, un champ lexical absolument vertigineux. C'est ça qui est très impressionnant.
Manon, pour le Canada, êtes-vous d'accord ?
Absolument, Emmanuel. Moi, comment est-ce que vous voulez que je ne tombe pas en amour avec un livre où on ressent un tel sentiment d'urgence dans une langue, Grégoire l'a dit, là, à la fois maîtrisée, mais aussi très orale, presque torrentielle, qui nous fait revivre la passion et la fougue de l'adolescence. Et puis, un roman avec une portée féministe et humaniste aussi forte, bien, c'est rare et c'est surtout très précieux. Anguille, en fait, je trouve que c'est une héroïne inoubliable, j'irais même à dire de la trempe d'Antigone.
Je rappelle, si vous rejoignez la librairie francophone, que nous sommes avec Alice Amir, jeune auteur comorien qui publie son premier roman et qui est la révélation littéraire de cette rentrée. Alice Amir, vous montrez dans ce livre que l'école n'est pas forcément l'unique solution pour s'en sortir dans la vie. Est-ce à dire qu'aux Comores, l'éducation s'éloigne des réalités sociales ?
Non, pas du tout. Là, ce n'est qu'une fiction.
Oui. Insistez beaucoup sur l'école. Et puis, vos personnages s'en vont, quittent l'école.
Oui, peut-être que je voulais faire allusion à la nouvelle génération qui, en fait, néglige beaucoup les études. Et beaucoup de gens n'arrivent pas à finir, à avoir même le baccalauréat. Et il y a cette jeunesse qui pense qu'ils peuvent gagner leur vie sans avoir fait des études. Et ce qui est faux, parce que on va pas à l'école forcément pour avoir de l'argent ou une profession, mais c'est pour justement devenir quelqu'un.
Oui, pour s'enrichir aussi.
Pour s'enrichir. Oui.
Apprendre la vie d'une certaine façon.
Et justement, c'est pour cela que j'ai fait qu'on se moque beaucoup de connaît tout. Quand il donne des conseils aux jeunes...
Alors,
connaît-tout,
c'est le père filles d'Anguille, notamment.
Oui, le père d'Anguille.
Et qui dit d'ailleurs à un moment, l'école est l'habit moral du corps humain.
Voilà, c'est exact. Connaît-tout, qui symbolise la sagesse, qui conseille aux jeunes d'aller à l'école au lieu de fumer des cigarettes...
Et de boire de l'alcool.
Ces jeunes-là se moquent de lui. Il lui dit, monsieur, vous n'êtes pas faite pour ça. Vous devez aller pêcher.
Alors c'est vrai que dans ce roman, d'une seule phrase, hein, je le rappelle, le lecteur rythme finalement l'histoire un peu comme il l'entend. Et vous évoquez la réalité sociale des Comores.
Oui.
Vous parlez des pêcheurs. Vous décrivez très bien d'ailleurs cet univers. On est vraiment avec les pêcheurs, hein, au bord de la mer. Oui. La détresse sociale, le refuge de l'alcool, on en parlait.
Oui.
Et puis la tentation de l'exil avec les problèmes des papiers, les passeurs aussi.
Oui.
Et alors, c'est très étonnant parce que l'histoire vous a un peu rejoint, car pour venir faire la promotion de ce livre en France, vous avez eu des problèmes de visa. On en a beaucoup parlé cet été, ça a fait un scandale.
Tout à fait.
Qu'est-ce qui s'est passé exactement ? Quelle est votre version ?
Je ne sais pas exactement ce qui s'est passé. Moi-même, jusqu'à maintenant, j'ai pas pu connaître la raison qui a fait qu'on voulait me refuser ce visa. Il devait y avoir une motivation pour le refus de la préfecture de La Réunion, mais il n'y en avait pas. Ils m'ont livré le papier, ils ont gardé mon passeport. J'ai pris le papier, je suis parti et...
Alors les choses se sont un peu arrangées puisque le ministre de la francophonie français, André Valigny, vous a reçu.
Bien sûr.
Donc voilà, il s'est passé des choses parce que les médias ont bougé un peu. Vous vous êtes senti un peu humilié quand même parce que vous qui portez la langue française, vous le dites, la langue française c'est votre langue. C'est celle qui vous permet de vous exprimer. Vous dites la langue française m'a choisi. Ça a été une humiliation, une vexation ?
Non, ça n'était pas une humiliation. Mais par contre, j'avais peur qu'on éclipse le roman et qu'on parle... de cette affaire, parce cette affaire risquait de prendre une autre ampleur. Au lieu de parler de l'ouvrage, justement, on avait tendance à parler de cette affaire et j'avais choisi de ne pas en parler.
Bon, voilà qui est fait en tout cas. Merci beaucoup Alice Amir. On va laisser la parole aux libraires qui ont lu votre livre et qui vont parler du livre, justement.
Merci à vous.
Déborah, en Belgique, une lecture un tout petit peu difficile pour vous.
Voilà, oui, difficile, mais parlons d'ouvrage, comme vous dites.
J'ai été déstabilisée. Je vous cache pas, moi, comme votre personnage, je me suis noyée. Je me suis noyée dans vos mots, je me suis noyée dans vos phrases, dans vos tournures. Mais en même temps, j'ai tout de suite senti la puissance de votre texte. Et du coup, ben, j'ai cherché un peu désespérément au début un moyen d'y entrer malgré tout. Et là, comme Grégoire parlait de physique, ben, moi, c'est par le physique que j'y suis arrivée. Je me suis mis à le lire à voix haute. Et du coup, ben, c'est comme si mes freins tombaient. Je me suis laissée entraîner dans votre tourbillon. J'ai pas forcément tout compris, mais c'était facile et c'était bien.
c'est pas nécessaire de tout comprendre, finalement.
Oui, les tourbillons sont c'est à cause, justement, de la noyade.
Oui.
C'est normal. Vous vivez la noyade.
Et oui, elle a coulé avec le personnage,
voilà,
à un moment.
Voilà, justement, ouais. Là, vous êtes en train de vivre ce qu'elle était en train de subir.
Mais en tout cas, il y a une prouesse littéraire à Lisa Mir, parce que vous arrivez à relancer, finalement, l'histoire. On ne s'ennuie jamais. C'est vrai que c'est un tourbillon, ça pourrait faire peur aux lecteurs et aux auditeurs, parce que les livres comme ça, on les connaît, hein, c'est des fragments, ça, mais c'est pas du tout ça. C'est une vraie histoire, il y a un vrai tourbillon, mais vous arrivez à relancer l'attention. On va voir si Laura, en Suisse, est d'accord avec moi. Laura, qu'en pensez-vous ?
Oui, ben moi je suis un peu comme vous autres, je suis complètement subjuguée par ce livre. D'abord il y a cette magnifique héroïne Anguille, et puis il y a cet autre personnage incroyable, la langue française. Monsieur Zamien, vous vous êtes approprié un français libre, un français qui pioche ce dont elle a besoin dans tous les répertoires et dans toutes les strates, une langue joueuse. Et c'est pour moi ce qui en fait un livre complètement hors du commun. Et puis j'ai beaucoup ri en tombant sur l'expression « manger en Suisse », car je vous jure que je trouve régulièrement des Suisses autour de moi qui ne la connaissent pas.
L'expression manger en Suisse, oui, vous connaissiez ça, vous, les amis.
Ce sont des expressions dont j'ai fait beaucoup de recherches pour.
Ah oui, c'est ça.
Pour mêler les registres. Je l'ai fait exprès. En fait,
Les registres francophones, vous vouliez passer dans la librairie francophone.
Des différentes cultures.
Oui, oui.
J'ai tout fait pour que ce roman ne soit pas classé dans un tel rayon.
Oui, c'est vrai.
C'est ça ce que j'ai voulu.
Ça se ressent, oui. Alors, manger en Suisse, qu'est-ce que ça veut dire, du coup, Laura?
Ça veut dire manger tout seul dans son coin.
Égoïstement, hein, c'est ça.
Ouais, c'est ça.
On va terminer avec une phrase qui m'intrigue, Lisa Mir. Dans ce livre, quand Anguille décide de partir pour Mayotte, car son père a la chasse de la maison familiale, elle est sans papier. Et elle dit « Les vrais papiers d'un être humain ne sont même pas accessibles dans ce monde. » Vous pouvez nous expliquer ça ?
Peut-être que elle fait allusion à la religion, c'est-à-dire que
à la religion.
Pour ceux qui croient en Dieu, pour Anguille, les papiers qu'on possède, c'est Dieu seul qui sait où va la vie d'un être humain. Et pour elle, à partir des papiers, on ne devait pas demander des nationalités, parce que nous ne connaissons pas vraiment notre nationalité, notre vraie nationalité.
Oui, parce qu'on pourrait venir de partout, c'est ça. On est né de façon un peu arbitraire.
Elle,
on arrive sur Terre à un endroit précis, c'est ça que vous voulez dire.
Pour elle, il y a une universalité.
Ouais.
C'est-à-dire, il y a
on ne choisit pas l'endroit où on est.
Voilà. C'est l'humanité, son passeport, c'est l'humanité elle-même.
Très bien. Merci beaucoup, Lisa Mir. Anguille sous roche est publié aux éditions du Tripode. C'est un grand roman, la surprise de cette rentrée littéraire, une vraie découverte que l'on vous conseille vivement. Dans quelques instants, on vous emmène à Namur, en Belgique, pour parler de l'intime avec l'écrivain Jean-Luc Hooters, le cinéaste Lucas Bellevaux et la chanteuse Nathalie Dessay. Et puis notre séquence, le son du monde, cap sur l'Amérique aujourd'hui, avec le traducteur de Jim Harrison qui lit un extrait de son tout dernier livre, écrit juste avant sa mort. Avant cela, un petit voyage au Sénégal, ça vous irait ? Voici Amadou et Mariam avec Manu Chao. Merci à vous d'écouter la librairie francophone à travers le monde.
C'est au Manhattan, fast food, Dakar, Sénégal, cinéma, le Paris. Demain je serai parti, la gare Dakar, Bamako, Mopti, y a pas de problème, tout va bien. Aujourd'hui je me marie, j'ai confiance à Moul Solo, Gao, l'Algérie, Tunisie, Italie, y a pas de problème, j'aime au Manhattan, fast food, Dakar.
fast-food Dakar, Sénégal, la grand-mère à l'hôpital d'Antec, tout va bien, Kairek, moi ici, toi là-bas, le visa au consulat numéro 39, y attend, à l'état civil, déjà l'an 2000, déjà 2000 ans, au Manhattan, fast-food Dakar, Sénégal, cinéma le Paris. Il est 5h au Mali, quelle heure est-il au paradis? Il est minuit à Tokyo, il est 5h au Mali, quelle heure est-il au paradis? Dakar, Bamako, Rio de Janeiro, où est le problème? Où est la frontière? Entre les murs, se faufiler dans l'ascenseur, ascenseur pour le ghetto. Au Manhattan, fast food, Dakar, Sénégal, cinéma de Paris.
Amadou et Mariam avec Manu Chao, Sénégal Fast Food, sur votre radio francophone.
La librairie francophone, une émission coproduite par les radios francophones publiques.
RTS la première.
RTBF la première.
Ici Radio-Canada première.
France Inter.
Toutes les semaines, nous vous emmenons dans la plus grande librairie du monde avec des libraires qui vont vous parler des livres dans toutes les catégories. Et cette saison, il y a une petite nouveauté. Les libraires présentent un coup de gueule ou un coup de cœur. C'est au choix. On commence dans le rayon des romans contemporains avec Grégoire Courtois. Coup de gueule ou coup de cœur, Grégoire ?
Ah ouais, coup de gueule, parce que là, vraiment, Ouais, non, mais vraiment, je suis très triste par un auteur que j'adore, hein, qui s'appelle Marc Graciano. Alors, il est très peu connu, mais c'est quand même un auteur fabuleux, vraiment, que je vous conseille de lire, Liberté dans la montagne. Son premier roman était splendide. Là, il arrive avec un nouveau roman qui s'appelle Au pays de la fille électrique. Et pour le coup, moi, ça m'a absolument choqué, puisque c'est un ouvrage qui parle de la résilience, de comment on remonte sur pied après un traumatisme. Sauf que le livre commence par 30 pages vraiment très explicite d'un viol, et c'est absolument insupportable. Et vraiment, là, je trouve que c'était pas du tout utile. Je comprends le projet littéraire, mais moi, en tant que lecteur, j'ai dit stop, c'est pas possible.
D'accord, ça vous est tombé des mains au bout de 30 pages, c'est ça ?
C'est insupportable, c'est absolument insupportable, et c'est fait exprès, bien sûr, c'est fait exprès.
Mais ça peut être une figure littéraire ou un exercice, non, même pas.
Je suis tout à fait d'accord, c'est exactement le projet de Marc Graciano. Ah ouais, mais je suis d'accord, mais moi en tant que lecteur, c'était pas possible.
Bon, ça vous énerve, ok.
Ouais.
Bon, au pays de la fille électrique, donc si vous avez envie de tenter l'expérience de Marc Graciano aux éditions Corti. Merci Grégoire. Dans la catégorie des livres pour la jeunesse, c'est Manon Trépanier qui vous présente son coup de cœur.
Oui, je vais vous parler d'Azada, Emmanuel. C'est de Jacques Goldstein et c'est paru chez La Pastèque. En fait, l'histoire se déroule dans un pays où les écoles sont détruites, puis le destin des enfants est tissé d'avance. On pourrait imaginer facilement que ce serait l'Afghanistan, si vous voulez. Et Azada, bien, c'est une petite fille qui désire profiter de tout ce que le monde et l'instruction pourraient lui offrir, parce que elle est inspirée par une rencontre avec une photographe. Et pour s'émanciper, bien, elle va devoir utiliser et sa débrouillardise et son imagination. C'est mon coup de cœur pour la portée humaniste de l'histoire, bien sûr, mais aussi pour la beauté joyeuse des aquarelles de Goldstein.
Azada aux éditions La Pastèque. Merci Manon.
La librairie francophone, Emmanuel Kérad.
Et on vous emmène à l'Intime Festival, organisé chaque année à Namur, en Belgique, début septembre. Le festival de Benoît Poelvoorde met en scène artistes et auteurs avec des lectures de textes et des performances aussi autour du livre. Nous avons réuni un auteur, un cinéaste et une chanteuse pour décrypter l'intime. Comment l'intime se manifeste-t-il pour eux dans leur discipline ? C'est la question posée à Jean-Luc Outers, Lucas Bellevaux et Nathalie Dessay. Et nous sommes donc au théâtre de Namur, dans le foyer, à l'Intime Festival. Nous allons parler de l'intime. Quels sont les degrés de l'intime? On va essayer de décrypter tout ça. Bonjour Jean-Luc Couters.
Bonjour.
Prenez un micro.
Bonjour.
Comment allez-vous?
Ça va très bien,
ça
merci,
va
oui.
Alors vous, l'écrivain, formidable auteur du Voyage de Lucas, publié chez Actes Sud, qui a obtenu le prix Rossel des Jeunes en 2008, comment traduisez-vous l'intime?
C'est d'abord dans le rapport qu'on a à l'écriture, parce que on se trouve seul, dans une sorte d'intimité avec soi-même, et c'est d'abord là que ça se passe, quoi. Quand j'écris, j'essaie toujours de voir comment je ressens le monde. Donc ça passe toujours à travers ma propre perception des choses, des gens.
Un peu comme Lucas Bellevaux, hein. C'est vrai, Lucas. Alors, vous avez commencé votre carrière derrière la caméra. À ce moment-là, on vous présentait comme un réalisateur intimiste. Et puis, vous avez capté les fragilités. Vous avez produit un cinéma militant, engagé, toujours avec cette délicatesse, toujours avec cette sensibilité. Votre intime, il est là aujourd'hui, il est dans la délicatesse, dans la sensibilité?
Ça, je n'en sais rien. Je ne sais pas si je suis délicat.
Si, moi, je vous le dis, vous êtes délicat.
Mais
enfin, en tout cas, vos films sont délicats. Après, vous...
Oui, voilà.
C'est un autre problème.
Non,
quoi.
Non mais la question de l'intime, quand on écrit un film, quand on le fait, la question de l'intimité, c'est, en ce qui me concerne, en tout cas, c'est dans le choix du sujet, dans la façon de l'aborder, où effectivement, je rejoins assez ce que dit Jean-Luc Couters là-dessus, c'est pas forcément en passant par l'autobiographie, c'est le regard qu'on porte sur les choses, les questions qu'on se pose. Moi, j'ai l'impression que chacun de mes films, c'est une tentative de répondre à des questions que je me pose intimement tout le temps.
Ouais.
Puis j'écris pour essayer de trouver
des réponses ouais.
que je trouve rarement, en fait.
Mmh. Bon, en tout cas, ceux qui voient vos films, parfois, trouvent des réponses.
Oui, ça sert à ça. Hein, ça sert à ça. C'est un peu une façon de transmettre les questions.
Oui, c'est ça.
Les gens se les posent.
Ouais, de transférer, en fait.
Oui, oui. Oui
c'est commode, quoi. Vous transférez votre intime, vous?
Peut-être je transmets, mais en contrebande.
Ouais.
C'est-à-dire que même quand un film parle de choses... qui n'ont pas l'air intimes ou qui ne regardent pas. Souvent, moi je le sais, parfois je suis le seul à le savoir, il y a des choses qui me sont très très intimes. Ouais.
Alors il n'y a pas son genre, je me souviens très bien de ce film où vous abordiez une forme d'intimité aussi avec la rencontre improbable entre un prof de philo et une coiffeuse fan de karaoké. Voilà, c'était deux mondes qui s'affrontaient comme ça. Vous avez été confronté, vous, à ce genre de questions, forcément, à un moment.
Déjà, avec qui
peut-on aller? Avec qui peut-on faire sa vie? Tous les hommes se posent ces questions-là.
Bien sûr.
Tu vois Nathalie Dossé qui se marre dans son coin. Mais tous les hommes se posent cette question-là.
J'imagine toutes les femmes aussi.
Oui, c'est ça. Oui.
mais là, c'est amusant parce que c'est quand même d'abord l'intime de Philippe Villain, l'auteur du livre.
Oui, c'est vrai. Ouais, Philippe, qu'on salue d'ailleurs, qui est un auteur qu'on connaît bien.
Important.
Très bon auteur. Oui.
J'avais un peu l'impression d'être appelé par ce livre. Après, il y a d'autres intimités qui rentrent. Ouais. Cette fille qui était coiffeuse, par certains aspects, elle me rappelait ma grand-mère qui était coiffeuse aussi. Et voilà, donc à chaque fois, on met...
Oui, c'est ça, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, le transfert de l'intimité.
Oui.
Les auteurs, les cinéastes font souvent ça. Oui. La formidable Nathalie Dossé, qui est juste à côté de moi. Je suis très honoré. Bonsoir Nathalie.
Bonsoir.
Comment allez-vous?
Ça va,
vous êtes
merci.
Rayonnante. Alors vous, là, il fait une chaleur terrible. Et puis vous êtes parfaite. Vous êtes,
mais je ne bouge pas. Je ne bouge pas la pouce.
C'est ça, vous restez immobile. Pourquoi avez-vous arrêté comme ça d'un coup d'être chanteuse d'opéra? Parce que c'était trop exposé, c'était pas assez intime pour vous?
Sans doute, il y a de ça. J'étais arrivée au bout d'un parcours, je crois. Et puis, à l'opéra, vos rôles sont conditionnés par votre voix. Et donc, moi, j'étais abonnée aux voix de jeune première.
Mmh.
Et là, aujourd'hui, j'ai 51 ans.
Bah, donc, vous les faites pas.
Certes, surtout de loin.
Non, mais, non, même de près, vous êtes à côté de moi.
Mais j'ai plus envie de jouer la même chose. Moi, j'ai fait ce métier pour jouer. J'adore jouer et il faut que je joue des personnages qui me correspondent davantage, en tout cas qui m'intéressent davantage.
Vous aviez besoin d'intimité.
J'ai besoin d'intimité, j'ai besoin de mots, j'ai besoin de textes. C'est pour ça que je fais des lectures, c'est pour ça que je fais du théâtre, c'est pour ça que je lis et que, en l'occurrence, moi je ne crée rien, mais je mets mon intimité ou une certaine forme de mon intimité sur la place publique. Et c'est ça qui est intéressant, je trouve.
Et vous reviendrez, vous pensez, à l'opéra un jour? Oui.
Non, non.
Ah non?
Non, non, moi je continue à chanter. Je chante des chansons, je chante des leaders.
Avec Michel Legrand.
Oui, je chante aussi de la musique classique,
mm-hmm.
mais je ne veux pas revenir à l'opéra, non.
C'était intime, ça, de chanter avec Michel Legrand?
Oui, c'est une très belle rencontre et on n'a pas fini. On a un nouveau projet ensemble de chansons qu'il vient de terminer. Donc, quelque chose de nouveau. Ouais.
Et vous pouvez donc retrouver Nathalie Dessay en CD avec Michel Legrand, vous l'avez compris. On va écouter à présent le son du monde de la semaine. Le principe, vous le connaissez, une musique habillée d'une voix. La voix d'aujourd'hui lit un extrait du vieux Saltimbanque, le tout dernier livre de Jim Harrison. Il vient de sortir en librairie en français et a été publié aux États-Unis un mois avant sa mort. Celui qui a accepté cette lecture, toujours à Namur en Belgique, c'est son traducteur, celui qui a traduit en français tous les livres de Harrison. Brice Mathieu-San lit la première page, suivie d'un commentaire sur la musique américaine de Johnny Cash. Et pour la première fois dans la librairie francophone, on donne la parole à un traducteur.
I hurt myself today to see if I still feel. I focus on the pain, the only thing that's real. Il y a quelques années, alors qu'à près de 60 ans, je ressentais de manière poignante la menace de la mort, je me suis dit, le moment est venu d'écrire mes mémoires, ce que j'ai fait. Mais la vie en a décidé autrement, et plus de 15 ans après, je ne suis toujours pas mort. Une agréable surprise pour un poète qui était persuadé de mourir jeune, écroulé sur le plancher de sa maison, ou près d'une des innombrables fontaines de Rome, ou encore affamé dans une chambre de bonne parisienne, perversement située au-dessus d'un bistrot, comme pour lui faire humer des odeurs délicieuses de plats qu'il ne pouvait s'offrir. Je m'étouffe avec une arête de poisson trouvée dans une poubelle. Puis l'hémorragie et les violentes quintes de toux m'achèvent à l'aube et me laissent gisant dans la ruelle après une nuit glacée de pluie ininterrompue. Des frissons m'ont maintenu en vie toute la nuit. Une adorable joggeuse en short vert me découvre là et se dresse au-dessus de moi. Elle se penche à la recherche de signes de vie inexistants, hormis une paupière droite palpitante. L'œil gauche est aveugle depuis l'enfance. Levant les yeux vers son gracieux entrejambe, je me dis que je suis né et que je meurs entre les cuisses d'une femme. Ça tombe bien, car toute ma vie, j'ai accordé beaucoup d'attention à cet endroit précis de l'anatomie féminine.
I wear this crown of thorns upon my liar's chair, full of broken thoughts I cannot repair.
Brice Mathieu-San, bonjour.
Et bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. Vous vivez et travaillez entre Paris et Marseille.
Oui.
Et puis, vous êtes surtout le traducteur de Bret Easton Ellis, de Richard Ford, mais aussi surtout de Jim Harrison. Avez-vous eu des désaccords avec Jim Harrison? C'est arrivé, ça?
Non, mais il m'a dit souvent, Brice, tu sais, tu peux modifier mon livre tant que tu veux. Tu supprimes des personnages, tu en rajoutes, tu peux rallonger. Et il me disait, mais en français, c'est curieux, c'est beaucoup plus gros en anglais.
Ouais.
Et il me disait, mais Brice, tu dois rajouter plein de choses. Et je lui disais, non, moi je traduis ce que je lis et je ne fais rien de ce que j'ai fait dans mon roman La Vengeance du traducteur. Et il me disait à ce moment-là, mais tu es libre de faire ce que tu veux.
Oui,
ce
alors,
que j'ai jamais
fait
d'ailleurs.
Alors, heureusement, parce que ça c'est le grand débat, oui. Effectivement. Quand on lit des livres traduits, d'ailleurs vous le dites, les éditeurs ont un peu de mal aujourd'hui à apporter les traducteurs parce qu'ils ont l'impression de désacraliser une œuvre finalement et qu'il y a une interface entre le traducteur et entre l'auteur. Et vous vous dites finalement, la traduction c'est aussi de l'art.
Le problème c'est surtout que les éditeurs préfèrent que le lecteur soit directement en contact avec Dieu. Dieu, c'est l'auteur.
Ben c'est ça, oui, tous.
Donc,
on
voilà.
Est tous comme ça.
Voilà,
oui.
Ben bien sûr.
Et vous n'avez pas le droit de modifier les textes, on est d'accord.
Non, mais j'ai le droit de les traduire.
Oui, mais alors, quelle est la marge entre la traduction littérale et la modification du texte?
Ben, évidemment que tout est modifié, parce que...
Ah, tout est modifié. Ben, là, vous êtes en train de nous dire que Jim Harrison, qu'on lit en français, on a tous lu Jim Harrison en français.
Ça n'a rien à voir avec l'original.
Ah, ben bien sûr. Très bonne nouvelle.
Oui, c'est complètement autre chose.
Oui, mais voilà.
Il y a un art de la traduction, il y a un art de modifier les choses. Voilà. Et il faut le faire avec le plus d'art possible.
Le vieux Saltimbanque, est-ce que vous avez découvert des choses de Jim Harrison? Parce que vous l'avez rencontré, vous l'avez côtoyé, vous avez même fait un reportage sur lui. Qu'est-ce qui vous a choqué dans ce livre-là ou qui vous a
Ce que j'ai découvert, la confirmation que j'ai découvert, c'est son amour des cochons. À tel point que, sur le tard... Il vivait plus avec sa femme, mais il avait acheté une truie de 350 kilos qu'il élevait dans son jardin, ou plutôt dans le jardin de sa femme. La femme n'était évidemment pas contente du tout. Et cette truie, surtout quand cette truie a accouché de 6 petits cochons et qui sont mis à grandir à vitesse grand V et qui très vite ont atteint la taille, le poids de 200, 250 kilos.
Ah oui.
Oui, alors il fallait les nourrir, il fallait les distraire, il fallait les emmener en promenade. Et alors Jim Harrison a fait une erreur qu'il n'aurait jamais dû faire, il leur a donné des noms. Parce qu'il savait malgré tout que les fermiers ne donnaient jamais de nom à leurs cochons, ni à leurs vaches, parce qu'ils savaient que la destination...
On ne s'attache pas.
L'abattoir. Ben oui, oui. L'abattoir, bon. On ne va pas sacrifier John et Margie, les envoyer à l'abattoir en pleurant tout le long du chemin, ce n'est pas possible.
C'est
mais lui a commis cette erreur-là, mais il était assez âgé, oui. Et peut-être qu'il avait des envies... de reporter son affection sur des animaux. Voilà, et ça dure assez longtemps.
Il y a plein d'histoires étonnantes dans ce livre. Merci beaucoup pour ce choix. Merci Brice Mathieu-San qui lit Jim Harrison. Vous pouvez l'applaudir, bien sûr.
Merci.
Ici à Namur, le vieux saltimbanque aux éditions Flammarion. Merci Brice.
Merci
c'est un
beaucoup.
Grand plaisir. À très bientôt. Dans cette plus grande librairie du monde, on s'intéresse à présent au polar avec Déborah Damblon en Belgique. Coup de cœur ou coup de gueule, Déborah ?
Devinez, Emmanuel.
Bah, je sais pas, coup de gueule, tiens.
Bah oui, coup de gueule.
Ah, ça vous plaît, ça, cette année. Allez-y.
Ouais, je m'amuse, vous avez pas idée. Ouais. Alors, est-ce que vous pouvez m'expliquer pourquoi, de nos jours, quand on cherche un bon polar, il faut absolument être dépaysé ? Parce que moi, j'ai l'impression que si on ne vous emmène pas, au moins, en Scandinavie, au pôle Nord, en Chine, ou je ne sais pas où ailleurs, oui. Ça n'en vaut pas la peine. Alors, vous savez quoi ? Moi, je vous conseille un bon policier bien de chez nous.
Ouais.
Ça s'appelle, je ne sais pas, c'est de Barbara Abel, et puis c'est tout.
Bon, mais alors voilà. Donc, Barbara Abel, je sais pas, aux éditions Belfond, c'est ça ?
Exactement.
Ok. Pour la catégorie des essais, on part en Suisse. Laura Sanchez, coup de cœur, coup de gueule, quoi donc ?
Eh bien, un peu un coup de cœur et un peu un coup de gueule aujourd'hui, Emmanuel. Dites-moi, pourquoi ? Oui, un mix des deux.
Allez-y.
Pourquoi, dites-moi, les livres ne changent-ils pas le monde ? C'est vrai, il y a tellement d'intellectuels brillants qui nous donnent à comprendre comment marche le monde et pourquoi on en est arrivé là. Prenez par exemple le dernier livre de Mireille Delmas-Marty qui s'appelle « Aux quatre vents du monde ». C'est aux éditions du Seuil et je tiens à vous lire le sous-titre. C'est « Petit guide de navigation sur l'océan de la mondialisation ». C'est un essai accessible qui propose d'humaniser la mondialisation, rien que ça. Donc voilà, un livre de plus qui pourrait et devrait faire bouger les choses. Non
ah oui, un livre qui peut changer le monde, quoi, c'est ça ?
Oui, s'il vous plaît.
Très bien, merci beaucoup Laura. Après Ali Zamir et l'Intime Festival, on reçoit Daniel Grenier pour l'année la plus longue. Daniel, deux de vos personnages sont nés une année bissextile, un 29 février. Vous êtes né quel jour, vous ?
Le 22 juillet. J'aurais vraiment adoré pouvoir vous répondre autre chose, mais je suis né le 22 juillet.
Donc vous avez vraiment votre âge ?
J'ai vraiment mon âge.
Vous n'êtes pas tombé dans un
le
espace
temporel,
spatio-temporel.
Un espace, un trou, on peut appeler ça de toutes les manières qu'on veut. Une faille temporelle, disons-le comme ça, qui permettrait d'avoir accès à, on pourrait dire la vie éternelle, mais c'est pas tout à fait ça.
De vivre 200, 300 ans. Ouais. Vous avez l'impression que Daniel Grenier est fou ? Pas du tout, on va décrypter son roman dans un instant. Restez à l'écoute, on poursuit cette conversation et on part en Amérique juste après. Le nouveau titre de Jacques Higelin, extrait en avant-première de son tout nouvel album à paraître en octobre dans la librairie francophone.
J'ai toujours rêvé d'être un pionnier, un fier aventurier, fou de chevaucher, sauvage. En cavale, hey. J'ai toujours rêvé d'être un gringo, vivant de rapines. Chercheur d'or, chasseur de primes. Un vrai salaud, hey. Un desperado, hors la loi. Perdu dans un canyon désert. Qui prend ses désirs pour des lois. Outlaw. J'espère. Yeah. passe planqué dans la manche, une balle à mettre dans le dos du beau cow-boy solitaire. Du héros tombeur de squaw, voleur de chevaux, avoir mon portrait cloué au tableau du shérif. Just wanted un desperado hors la loi, perdu dans un canyon désert, qui prend ses désirs pour des lois. Outlaw, j'espère. Rêver d'être un pionnier, un fier aventurier, fou de chevaucher, sauvage. Lonesome bad boy.
Jacques Higelin, qui vient de citer le titre de ce tout nouveau titre qui sera sur son prochain album sur ICI Radio-Canada Première, RTBF la première de la RTS et sur France Inter.
La librairie francophone, Emmanuel Queyrade.
Daniel Grenier est dans la librairie cette semaine pour l'année la plus longue parue chez Flammarion en Europe et au Cartanier au Canada. C'est un roman fou, Daniel, qui retrace l'histoire des États-Unis et du Québec à partir de 1760 avec un brin d'anticipation qui nous mène en 2047.
N'en disons pas trop.
N'en disons pas trop, mais c'est déjà... Voilà, accrochez-vous. Deux de vos personnages sont nés un 29 février. Thomas, né en 1980, et Aimé, son ancêtre, né lui en 1760.
Voilà.
Le père de Thomas, qui a disparu de la circulation, s'est jeté à corps perdu dans la recherche d'Aimé.
Pendant plusieurs années.
Car il serait toujours vivant. Et pourtant, si on calcule, c'est impossible.
Il l'appelle mon ancêtre, mon contemporain.
Ouais, c'est ça.
Oui, c'est-à-dire que bon, le 29 février, dans le roman, c'est une date qui est mise en scène comme étant probablement la date la plus importante de l'univers. Cette date crée une faille temporelle dans laquelle certains enfants pourraient tomber et devenir ce qu'on appelle des leapers.
Ouais.
Le leaper étant la personne qui est née le 29 février, de l'expression anglaise « leap year », et aussi cet enfant qui, et cet homme ou cette femme qui pourrait vieillir comme ça, avoir une vie élastique, allongée.
Qui va vivre quatre fois plus longtemps.
Quatre fois plus longtemps que tout le monde. Voilà.
Alors Aimé, que l'on va suivre à travers toute l'histoire américaine et canadienne, ne fait jamais son âge. Il va participer aux guerres de chaque époque, passer du cheval comme moyen de locomotion à l'avion. Il traverse le temps un peu comme un immortel.
Exactement, un peu comme un immortel. Ce qui est intéressant dans le cas d'Aimé, c'est qu'il n'est pas un immortel, pour être précis, parce qu'il ne fait que vieillir. En fait, la mort est au bout du chemin.
Oui, oui.
Et Aimé, c'est un personnage intéressant parce que, à partir d'un certain moment, c'est-à-dire vers ses 200 ans, où il en fait 50, 56 environ, il se regarde dans le miroir et là, il se met à avoir des pensées, pas des pensées nécessairement suicidaires, mais des pensées dépressives, c'est-à-dire qu'il se rend compte, d'accord, c'est bien beau, j'ai été jeune pendant 200 ans, mais est-ce que maintenant je vais être vieux pendant 500, 600 ans?
C'est ça. Donc en fait,
parce que c'est long la vieillesse, comme le disait Woody
Allen. Il se fixe un objectif. Il va se fixer une date butoir. On va pas tout raconter.
Non, voilà,
hein,
c'est
Daniel
ça.
Grenier.
Évidemment, il y a quelques punchs à ne pas révéler au lecteur, mais disons que le roman se structure autour de cette idée-là de la vieillesse presque la vieillesse éternelle qui doit se terminer un jour, évidemment.
Alors, vous êtes assez malin parce que vous racontez du coup l'histoire américaine, l'histoire du Canada. Enfin, c'est très documenté, hein. Vous êtes très bon là-dessus. Et puis, en même temps, la tentation était grande, je suppose. Vous anticipez un peu l'histoire. Vous imaginez dans un proche avenir que nous pourrions, grâce à la science, vivre beaucoup plus longtemps, voire ne plus mourir du tout par fatalité. Ce qui est la théorie et même la bataille scientifique très controversée du transhumanisme.
Voilà.
Vous y croyez, vous, en cela? Vous êtes un partisan de cette idée-là?
Partisan, absolument pas. Ce sont, par contre, des questions que je me pose comme tout être humain à tous les jours. Est-ce que c'est vraiment quelque chose qu'on souhaiterait, par exemple? Moi, je suis content, en fait, de ne pas avoir été trop au courant, en fait, de ces questions-là avant d'écrire le livre, parce que je sais que ça serait probablement devenu un peu un livre à thèse sur ces questions-là.
Ben, vous êtes pas loin, hein.
Je me suis intéressé à des documentaires, par exemple, après avoir publié le roman. Et c'était un grand plaisir d'écrivain que de comprendre, je peux m'exprimer ainsi, que de comprendre ce que mon personnage principal allait devenir dans la vie, c'est-à-dire un grand scientifique qui travaille dans la génétique pour faire le lien avec son ancêtre.
Voilà, tout est lié. Et on en revient effectivement dans la dernière partie du livre à cette histoire de transhumanisme. Enfin, en tout cas, c'est pas mentionné.
C'est l'idée de relier l'ésotérique de la date du 29 février aux théories scientifiques qui traversent notre humanité.
Avec
aussi
les phénomènes cosmiques qui peuvent influer sur la vie de chacun.
Voilà,
bon, ça c'est encore un autre débat, on va pas rentrer là-dedans, sinon on en a pour 2 heures. On va voir du côté de nos libraires ce qu'ils ont pensé de votre livre, Daniel Grenier. Tiens, Canada, Suisse ou Belgique, que choisissez-vous?
Allons en Suisse.
Allons en Suisse, Laura Sanchez.
Oui, eh bien pour moi c'est un premier roman absolument impeccable. Le projet était très ambitieux. Il y a un vrai raconteur d'histoire derrière ce roman. J'ai aussi beaucoup aimé entendre parler d'une grande période historique comme celle-ci. Je trouve que c'est toujours une très bonne manière de relire le présent, l'histoire qui s'écrit sous nos yeux. Voilà, j'ai eu beaucoup de plaisir.
Très bien. Le Canada, ça vous va?
Oui, bien sûr.
Manon Trépanier, allez-y.
Ben, moi, j'ai été fascinée, Emmanuel, par ce livre. D'abord par la construction hallucinante et l'habileté très impressionnante que possède Daniel Grenier pour nous raconter une histoire captivante. L'appropriation du territoire est aussi très, très bien exploitée, je trouve. Puis, il faut dire que c'est un peu dans notre ADN de Nord-Américain, ça. Et finalement, ben, peut-être ce que j'ai préféré du livre, c'est que Daniel Grenier, il a la capacité d'explorer la psychologie des personnages, tant dans un cadre universel que dans la sphère très intime.
Voilà, on va voir si ça continue pour vous avec Déborah Damblon, qui est en Belgique. Êtes-vous d'accord avec vos collègues?
Oh oui, pour moi, mais quelle fresque! Je suis partie, mais loin, loin, loin dans le temps, dans l'espace, en vous lisant. Et vraiment, j'ai aimé le voyage. Bon, parfois, j'ai trouvé que votre récit était un peu long, mais c'était peut-être ma concentration. Mais je me suis trouvée bien, bien au cœur de vos pages. Et j'ai vraiment été impressionnée par la façon dont vous l'avez mené. Et je suis arrivée à me sentir vraiment très proche d'un monde qui, au fond, est très loin de moi.
C'est vrai que c'est un peu long, Daniel Grenier, c'est un roman étrange. Il est conçu comme un pulse, une enquête qu'il faut reconstituer finalement. On a du boulot, nous, lecteurs.
Oui, parce qu'il est dans toute la deuxième partie racontée en fragments, cette vie très très longue qui est racontée de façon épisodique parce qu'elle est impossible à raconter au complet. Et le lecteur se demande toujours un peu, est-ce que c'est vraiment arrivé? Est-ce que Aimé était vraiment à cet endroit-là, à ce moment-là? Donc on est un peu, oui, effectivement, sur la preuve écrite, le document, l'artefact. Qui fait qu'on doute de la narration.
Enfin, on doute, en même temps, on sait très bien qu'il n'a pas 200 ans. Enfin, on n'est pas... Voilà. C'est-à-dire que vous arrivez à nous faire douter.
Moi, en fait, j'ai
Aimé, qui est né en 1760 et qui se retrouve dans un avion en 1994, je veux bien qu'on doute, mais...
Mais c'est-à-dire que moi, ce que je voulais faire, c'est éviter que la porte du doute soit trop grande ouverte. Je ne voulais pas que le lecteur puisse se dire « Ah d'accord, Aimé n'a jamais existé, c'est un fantasme d'Albert Langlois. » Moi, je veux qu'Aimé ait existé pour vrai. Les lecteurs en France qui voudront, mais cette porte, je crois qu'elle n'est pas assez ouverte pour qu'on puisse entrer dedans.
Et autant elle existe, on ne sait pas.
Cette porte?
La porte, oui, ou l'homme qui est né un 29 février et qui finalement a son anniversaire que tous les 4 ans et qui ne vieillit d'un an que tous les 4 ans.
Ouais. Mais c'est ça. Et on a l'exemple dans le livre de quelqu'un qui serait cet être extraordinaire et son pendant ordinaire, si on veut, dans le jeune Thomas Langlois, qui lui aussi né un 29 février, est un garçon ordinaire. Qui
voilà, je suis perdu, j'ai un vertige là, Daniel. Je sais plus qui est vrai. Bon, Charles enseigne à son fils Thomas l'art de la patience. Ça, c'est un peu plus concret. Les hommes importants de l'histoire ont su attendre. C'est ce qu'il lui raconte. Qu'est-ce qu'on gagne à attendre, Daniel Grenier?
Ah, que c'est des questions difficiles, ça, quand on...
Fallait pas l'écrire, hein, ce bouquin. Hein. Moi, je m'appuie sur le livre hein, pour les questions.
Écoutez,
vous débrouillez avec, après.
Hein. Ce qu'Albert apprend à son fils, c'est que l'attente, c'est une valeur aussi importante que la générosité ou que les autres, parce que ça permet de passer à travers la vie de façon noble, si on veut. Donc, la vie n'ira jamais assez vite à notre goût, donc l'attente sert à devenir un humain, disons... équilibré.
À progresser?
Ouais. Bah oui, bien sûr. Ouais.
Dernière petite question délicate, Daniel.
Allez-y.
Si je peux me permettre, il y a des phrases en anglais dans ce roman francophone et même tout un dialogue intégralement en anglais sans traduction. Je ne peux pas m'empêcher de vous la poser, cette question. Comment est-il possible qu'un auteur québécois, et vous n'êtes pas le seul hein, d'ailleurs, puisse se permettre d'écrire des passages en anglais sans les traduire?
Peut-être parce que je suis traducteur moi-même.
C'est alors, d'autant plus, tiens.
Écoutez, moi, ça va au-delà des langues, c'est-à-dire que ces personnages...
Mais une page en anglais, Daniel.
C'est une page en anglais qui donne accès...
Pas de traduction derrière, rien.
Rien, absolument pas. C'est une page en anglais qui donne accès à la voix réelle, après 300 pages, de ces personnages.
Dans l'avion, avec
donc,
un échange,
sommes,
un dialogue.
Donc, quand on fait un roman américain... Nous sommes dans une traduction constante. Le lecteur doit accepter, évidemment, le contrat de lecture. Ces personnages s'expriment en anglais, mais nous avons accès à leur langue en français.
Ouais.
Et là, après 300 pages, après avoir tenté de créer un attachement émotionnel avec le lecteur, et là, je donne accès pendant une page aux vrais mots, aux mots véritables qu'ils s'échangent dans leur langue.
D'accord.
C'est un truc très très émotif de ma part d'avoir.
D'accord, c'est assumé. Et
ouais,
voilà.
Tout à fait. Ouais.
Très bien. On va donner le mot de la fin à un libraire. Grégoire Courtois, dans votre librairie française d'Auxerre, vous avez été plutôt conquis par ce roman.
Bah oui, là vous avez un peu fait le tour hein, de tout ce que je pense, de tout le bien que je pense de ce roman, effectivement. Moi, comme tous nos auditeurs québécois, j'ai découvert Daniel Grenier l'année dernière avec une grande stupéfaction. Et enfin, je vais réfléchir, je connais vraiment pas d'auteur francophone qui ait réussi comme ça à brosser avec un tel souffle l'histoire du continent nord-américain. C'est absolument étonnant. Et l'autre vraiment tour de force, et ça vous en avez parlé, c'est que on est sur un roman historique, mais Daniel Grenier s'empare du genre historique pour en faire complètement autre chose et des choses que vous avez commencé à évoquer, effectivement.
Voilà, belle conclusion. Merci Grégoire. Ça va, Daniel? Vous êtes content?
Bien sûr.
Vous avez fait l'unanimité chez les libraires. C'est assez rare pour le souligner.
Excellent.
Félicitations.
Comme Elie.
Oui, comme Alice Amir. Presque, oui, presque. Merci beaucoup, Daniel Grenier. L'année
Merci
la plus longue est parue aux éditions Flammarion pour l'Europe et au Cartanier au Canada. Merci, bonne route à vous. À bientôt.
Merci, Emmanuel.
La librairie francophone. Emmanuel Guérade.
Avant de conclure, voici une découverte musicale francophone avec le groupe suisse Le Roi Angus et un extrait de Sommeil Trompeur.
J'avais les heures à perdre en soir sommaire, repris au clair de lune en des jardins austères. Mais il est fixé à ton nom sur les murs, le choix des luminaires. Mordre la lune, dormir à l'heure. Un corps de brume diffus dans la sueur. J'avais dû voir venir la nuit entière, rendu au terme de mes heures sur les dunes. Le regard fixe et le sourire aux lèvres, la joie du somnambule, souffler les dunes, dormir à l'heure, laisser venir comme un sommeil trompeur.
Sommeil Trompeur, un extrait de l'album du Roi Angus que vous pouvez retrouver sur Internet, sur les plateformes légales de téléchargement et d'écoute en ligne. Et c'est la fin de cette édition. Je vous retrouve sur Facebook et Twitter pour communiquer avec vous. Toutes les infos, c'est sur librairiefrancophone.com. À la réalisation, Serge Gandon avec Patrick Henry. À la rédaction, Jean-Philippe Véret avec Christophe Magère et Marie-Louise Beau en France. Martine Béguin-Felet avec Annick Chouin en Suisse. René Mikils avec Valérie Lepute en Belgique. Jacqueline Castonguet et Sylvie Julien au Canada. On se retrouve la semaine prochaine pour la suite de ces merveilleuses aventures de la rentrée littéraire. À très bientôt, même jour, même heure, sur votre radio francophone.